Dans l'actualité, avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Nous sommes le 11 novembre et cette journée, vous le savez, a une résonance toute particulière à RFI car il y a tout juste 15 ans, disparaissait Joanne Sutton, grand reporter à RFI, tombée dans une embuscade alors qu'elle couvrait la guerre en Afghanistan. Ce jour-là, deux autres journalistes ont trouvé la mort aux côtés de notre collègue Pierre Billot, reporter à RTL, et Volker Hahn-Loïc, journaliste allemand au magazine Stern. Aujourd'hui, RFI rend hommage évidemment à nos trois confrères. Nous pensons à eux et vous pouvez évidemment sur le site internet d'RFI réécouter quelques-uns des nombreux reportages réalisés par Joanne Sutton. Nous sommes vendredi, c'est le jour de la libre antenne, l'occasion pour vous tous de commenter l'actualité de votre choix. Ce sera dans une trentaine de minutes. Je vous cache pas que vous êtes encore très nombreux ce matin à réagir à la victoire de Donald Trump aux États-Unis. On prendra évidemment quelques auditeurs en ligne. D'autres sujets retiennent malgré tout votre attention. J'ai vu qu'il y avait des appels concernant la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Une ou deux réactions également sur l'offensive des forces irakiennes contre Mossoul. L'affaire qui a défrayé la chronique ces derniers jours au Bénin. L'arrestation puis la libération de Sébastien Ajavon, le président du patronat. Et puis la crise post-électorale qui s'éternise au Gabon. Les sujets donc ne manquent pas. La libre antenne 33 9 693 693 70. Et vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI, appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et nous allons consacrer les 20 prochaines minutes au programme de Donald Trump. Beaucoup de questions et on le comprend, et c'est normal, puisque son programme est flou, d'autant plus flou que durant toute la campagne, il a dit tout et son contraire, notamment en matière de politique internationale. Pourra-t-il tenir toutes ses promesses, même les plus folles ? Yannick Mireur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, fondateur de la revue Politique américaine. Merci de nous accorder 20 minutes de votre emploi du temps. Je sais que, comme tous les experts, vous êtes extrêmement sollicité ces jours-ci. Ketika nous appelle du Togo. Il est à Lomé exactement. Bonjour Ketika.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI, notamment les auditeurs de Lomé.
De Lomé, capitale togolaise. On vous écoute.
Durant la campagne présidentielle, les discours de Donald Trump étaient pointillés d'agressivité et de violence à tel point que certains cadres du Parti républicain ont pris leur distance avec lui. Ma question est de savoir, Juan, après l'étonnante victoire de Donald Trump, quelle va être l'attitude des républicains de solidariser ? Trump parviendra-t-il à les rassembler autour de sa politique ?
Ah, Trump va-t-il réussir, parvenir à rassembler toute sa famille politique ? Yannick Mireur, c'est vrai qu'au sein du Parti républicain, on a vu émerger un courant anti-Trump. Il va donc devoir évidemment recoller les morceaux.
Oui, c'est une très bonne question parce que une fois passé l'étonnement, la surprise de l'élection et les résultats, il y a quand même, on se retrouve avec... Et la majorité républicaine en Congrès, on se retrouve quand même avec un parti républicain tout à fait éclaté, qui n'est pas du tout cohérent, qui n'est pas du tout un monolithe par rapport à un programme, une politique, ni même une vision d'ailleurs, sauf quelques grands thèmes comme la non-intervention de l'État ou la réduction autant que possible de l'intervention de l'État. Et ceci étant tout à fait en contradiction d'ailleurs avec les annonces qu'a faites Donald Trump, notamment pour un plan massif d'investissement pour les infrastructures, qui est évidemment un élément clé pour faire des États-Unis une grande économie moderne et retrouver, disons, sa singularité et sa première position de leadership dans le monde.
Oui, un plan qui s'élève tout de même à 1000 milliards de dollars.
Ben, c'est considérable. Donc, ça avait été aussi un des grands axes forts de Barack Obama, auquel évidemment les républicains s'étaient farouchement opposés. Ils n'avaient pas pu engager cela. Ils s'étaient limités à un Obamacare, comme vous savez, une loi sur la couverture maladie universelle ou la possibilité d'une couverture maladie universelle que les républicains souhaiteraient défaire, ce qui ne sera pas simple d'ailleurs, mais on y reviendra. Donc, pour répondre à la question, le choix aujourd'hui, c'est vrai, pour beaucoup de républicains de cœur, si vous voulez, c'est servir ou ne pas servir. Pour beaucoup d'entre eux qui ont déjà pris position pour certains de ses concurrents lors de la primaire républicaine, ou qui ont carrément pris position dans des articles d'opinion dans la presse, dans les éditoriaux, contre lui. Mmh. Alors la question est de se dire pour eux, est-ce que je me tiens à ma position, ou bien malgré tout, compte tenu des difficultés qu'aura le nouveau président à conduire à la politique et compte tenu de son inexpérience, est-ce que malgré tout je change d'avis et je vais proposer mes services par patriotisme, si vous voulez. Hein. Alors il y a évidemment les questions de carrière, puis il y a les questions aussi de fond et de patriotisme et de qualité de la politique qui sera menée aux États-Unis. Alors ça se pose pour beaucoup de gens, on n'en parle jamais, mais ça va continuer à se poser dans les mois qui viennent. Comme vous savez, il y a 3 mois de transition pour beaucoup de gens. Pour répondre à la question.
Et justement, excusez-moi Yannick Mirror, mais est-ce que durant ces 3 mois, Donald Trump essaiera-t-il peut-être de régler ses comptes avec tous ceux qui ne l'ont pas soutenu ?
Oui, c'est quelqu'un qui est assez vindicatif d'une manière générale. Alors il fera ce qui est le plus pratique, le plus intéressant pour lui. Hein. Mais il a quand même un instinct, on peut le lui reprocher ou pas, peu importe, c'est une question de caractère, être assez vindicatif. Donc je pense, il y aura parmi ces gens-là ceux avec lesquels un accommodement ne sera pas possible, et il y aura ceux avec lesquels on ne sera pas suffisamment aller trop loin, disons, si vous voulez, dans l'antagonisme. Je pense en particulier, puisque c'est déjà en cours, avec Paul Ryan, qui en plus est incontournable comme président de la Chambre des représentants, avec lequel les accommodements sont faisables. Voilà. Il y en a d'autres peut-être dont il n'aura pas nécessairement besoin et qu'il continuera peut-être de vilipender, qu'il écartera, avec lesquels il voudra pas, et ce sera peut-être réciproque d'ailleurs, avec lesquels il voudra pas parler.
Ouais, donc on comprend qu'il voudra quand même remodeler le parti républicain qui est plus jamais divisé, il voudra le remodeler à son image, et ça risque d'être très compliqué.
C'est très compliqué parce que j'allais vous dire, c'est peut-être parfois aussi le Congrès, surtout lorsqu'il est dominé par un parti puissant qui domine les deux chambres, qui remodèle plutôt la politique du président. Hein. Donc, si vous voulez, là, il y a quand même, on peut voir les choses, c'est comme le sablier, hein, on peut voir l'influence de l'un et de l'autre en fonction de l'évolution des circonstances qui seront forcément mouvantes de l'opinion publique, parce que sur certains points, je pense notamment aux questions un peu de société, aux questions morales, on parle beaucoup de l'avortement, de la prochaine nomination d'un juge à la Cour suprême qui, comme vous savez, est l'institution clé qui, par ses jugements, par ses décisions, oriente parfois une direction nouvelle dans la société américaine sur des questions aussi fondamentales que, par exemple, l'avortement. Et je ne crois pas que l'élection de Donald Trump, qui, il faut le rappeler au plan du vote populaire, est assez courte par rapport à Hillary Clinton, hein, et reçu un mandat, pourrions-nous dire, moral, pour changer certaines évolutions essentielles comme l'avortement. Et d'ailleurs, lui-même est très ouvert. Il n'est pas un archi-conservateur, comme d'autres le sont dans la majorité. Donc ce sera très compliqué, si vous voulez,
alors,
pour unifier.
Yannick Mirror, il y a beaucoup de questions standards. On va essayer de prendre, durant les 12 minutes qui nous restent, le plus grand nombre d'auditeurs, donc peut-être des réponses un peu plus concises. Je sais que chaque question mériterait peut-être une heure de réponse. Chanel, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Brazzaville, soyez le bienvenu.
Oui, merci, Juan. Alors, je peux aller directement à ma question ?
Allez-y, oui.
Très bien. Alors, donc, Donald Trump a dit pendant ses campagnes vouloir faire construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Et c'était au gouvernement mexicain de payer les frais de la construction. Maintenant qu'il est élu, est-ce qu'il tient toujours à cela ? Et vu que c'est sa propre initiative, pourquoi faire payer les frais de construction au gouvernement mexicain ?
Alors, est-ce que, Yannick Mirror, est-ce que Donald Trump pourra réaliser cette promesse, construire donc un mur de 1600 km le long de la frontière mexicaine, et surtout, puisqu'il l'a promis, et Chanel nous le rappelait à l'instant, il a promis que le Mexique financerait ce projet. Est-ce que c'est possible ?
Non, ça fait partie des propositions outrancières et tout à fait irréalisables. Il va évidemment s'empresser ou prendre le temps, selon les circonstances, de balayer, de mettre sous le tapis pour qu'on n'en parle plus. Construire un mur, ça on peut toujours, c'est pas très compliqué. Le faire payer par un gouvernement étranger, évidemment, ça n'a absolument aucun sens. Donc il ne faut pas compter là-dessus. Ouais. Ce qui sera intéressant de voir.
Construire un mur,
sur l'immigration.
Bien sûr, mais pour rester une seconde sur le mur, Yannick Mirror, construire un mur, c'est possible, mais ça coûte très cher. Donald Trump estime qu'il coûterait entre 8 et 10 milliards, mais tout le monde dit que cette somme-là est sous-estimée, qu'il faut plutôt compter entre 18 et 20 milliards de dollars la construction de ces 1600 km de murs.
D'une part, alors pour un pays qui a besoin, avec une majorité qui est très attentive aux dépenses publiques, ça paraît tout à fait farfelu. D'autre part, en termes d'image, c'est exactement, je crois, le contraire de ce que prétend être et de ce que veut être, et une grande majorité des Américains reconnaissent comme identité et vocation des États-Unis d'Amérique. Donc je m'attendrai plutôt à un glissement vers d'autres mesures de renforcement de contrôle, de patrouille aérienne, terrestre, des frontières. Vous voyez, ce qui a déjà été un débat, puisque vous vous souvenez quand même que c'est le président Bush, soutenu par John McCain au Sénat, qui avait voulu proposer de régulariser les Mexicains illégaux sans papier qui sont présents, 10-11 millions de personnes ou 12 aux États-Unis. Donc le parti républicain est très divisé. Donc je pense que, un, sur le mur, j'imagine qu'on va plutôt glisser vers des contrôles renforcés aux frontières, ça me paraît beaucoup plus pertinent. Il y a aussi des questions de dépenses que vous venez d'évoquer. Et deux, vont ressurgir aussi des questions sur la régularisation des sans-papiers. Est-ce que vous les renvoyez chez vous, chez eux, pardon, ou est-ce que vous les gardez aux États-Unis, et dans quelles conditions?
Ouais. Yannick Mirror, politologue, spécialiste des États-Unis, répond à vos questions ce matin, notamment sur le programme de Donald Trump, 339-693-693-70. Bonjour Lamine.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes en Gambie, on vous écoute.
Effectivement, Donald Trump, pendant sa campagne présidentielle, avait émis des propos contradictoires sur les accords signés entre les États-Unis et le Cuba, qui devraient mettre fin à 52 ans de crise entre les deux pays. À ce sujet, je voulais savoir, maintenant qu'il est élu président, quelle sera la suite de ces accords et est-ce que l'embargo contre le Cuba sera-t-il levé?
Alors, Yannick Mirror, c'est vrai que la normalisation des relations entre Washington et la Havane est incontestablement une des réussites diplomatiques de Barack Obama, mais Donald Trump a toujours semblé vouloir, on va dire, une politique bien plus ferme vis-à-vis du gouvernement cubain. Va-t-il remettre en cause la main tendue de Barack Obama?
Je ne suis pas sûr sur ce sujet qu'il revienne et qu'il fasse marche arrière. Je ne suis pas sûr non plus que la pression d'une partie de la communauté cubaine-américaine de Floride soit suffisante. Les plus jeunes générations de ces mêmes Cubains sont tout à fait favorables à un dégel. Pour pouvoir faire évoluer Cuba et le rapprocher des États-Unis, il faut déjà pouvoir se parler. Donc là-dessus, j'imagine que l'axe d'ouverture et tactique, et qui fut en effet un grand succès, ne me paraît pas devoir être remis en cause. Et je ne pense pas que ce soit non plus d'ailleurs une des priorités internationales. Je regarderai plutôt des relations avec la Russie.
Tout à fait.
Pour la lutte antiterroriste.
On a des questions.
Du nouveau,
on a des questions effectivement sur la Russie. Mais ça signifie quoi que Donald Trump sera le président qui lèvera l'embargo américain sur Cuba?
Alors peut-être évidemment que ça c'est pas certain, peut-être simplement qu'on va se diriger vers un statu quo. Il faudra voir où on est aussi, qui dirigera un peu là, quels seront les porte-voix du Parti républicain, censé être plus modéré, on va dire, au Sénat, et que s'installe et que s'étalonne un petit peu les relations entre l'exécutif et le législatif.
Gilbert est avec nous au standard. Bonjour Gilbert.
Allô, bonjour.
Ah, bienvenue sur notre antenne. Il y a un petit décalage, mais ce décalage est tout à fait normal. Je regarde sur ma petite fiche. Vous êtes à Lubumbashi, donc à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce décalage téléphonique est normal lorsqu'on appelle les auditeurs de Lubumbashi. On vous écoute, Gilbert.
Il y a que Barack Obama avait annoncé le retrait des militaires américains en Irak. Et pourtant, il y a encore des militaires américains qui combattent actuellement à Mossoul. Quelle sera la position de M. Donald Trump à ce propos? Va-t-il continuer avec la guerre en Irak et le bombardement syrien?
Alors, le réseau téléphone était mauvais, vous parliez de Mossoul, effectivement, Barack Obama avait promis le retrait des troupes américaines d'Irak, elles sont encore aujourd'hui présentes. Yannick Mirror, Donald Trump, quelle est sa stratégie, sa vision pour lutter contre l'organisation de l'État islamique en Irak?
De stratégie, je pense qu'il n'en a pas encore et qu'il aura le temps de l'élaborer et de prendre la mesure aussi d'ailleurs de tout ce qui concerne de ce côté-là la charge de président des États-Unis. Sur l'esprit, en revanche, pour la question du retrait des troupes qui était attendu d'Irak, je pense que son esprit est le même que celui de Barack Obama, c'est-à-dire pas d'aventure guerrière et se concentrer sur les défis intérieurs, notamment économiques et de travail et d'immigration aux États-Unis. En revanche, je pense qu'il y aura une certaine continuité là-dedans parce que vous voyez bien qu'un retrait après une opération aussi considérable que l'invasion de l'Irak à l'époque de M. Bush ne peut pas être effacée du jour au lendemain. On ne peut pas retirer les troupes du jour au lendemain parce qu'on sait très bien que ça précipiterait le chaos, que ça compliquerait davantage la situation et que ça renforcerait le foyer de l'État islamique, terroriste et de toutes les forces de déstabilisation qui y sont liées dans la région si les États-Unis devaient se retirer d'un coup. Donc je pense simplement que c'est, on peut dire, un peu la gestion du chaos qu'a créé l'invasion de l'Irak et le renversement du régime de Saddam Hussein dans la région qui continue de contraindre les États-Unis à une présence militaire. Et malheureusement, je crois qu'il n'y aura pas d'autre choix que de poursuivre cela, d'autant qu'enfin, les républicains qui vont diriger au Congrès seront assez faucons dans leur approche des questions internationales, notamment de celle-là.
Alors, puisqu'on parle de la lutte contre Daesh, Donald Trump va-t-il continuer les bombardements américains en Syrie ?
C'est probable.
Il ne va pas...
Pour ne pas laisser les Russes occuper le terrain comme ils l'ont fait jusqu'ici, donc on va peut-être parler de la relation avec la Russie.
Ah bah justement.
Et c'est probable aussi par des questions de nécessité, encore une fois, d'opération de terrain. Voilà.
Alors on va parler de la Russie, on a Voglar. Est-ce qu'on peut avoir Voglar tout de suite ? Voglar, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la Radio Mondiale.
Merci de nous appeler du Cameroun, on vous écoute.
Oui, effectivement, je vous appelle du Cameroun. Nous avons constaté que pendant l'administration Obama, il y a eu des dégradations sans précédent des relations entre la Russie et les États-Unis. Maintenant, pendant l'élection de Donald Trump, ce dernier a promis avoir la main tendue pour un dialogue plus constructif avec la Russie. Notre question est de savoir, peut-on considérer l'élection de Donald Trump comme un élément déclencheur de la normalisation des relations entre Washington et le Kremlin ?
Alors, Yannick Mireur, l'avenir des relations entre Washington et Moscou, signalons que Vladimir Poutine a très très rapidement félicité Donald Trump et on se souviendra qu'il y a 4 ans, il avait attendu 24 heures avant d'envoyer un télégramme de félicitations à Barack Obama pour sa réélection.
Oui, mais c'est-à-dire que normalisation, je ne suis pas sûr que ce soit le mot approprié, en tous les cas qu'il y ait un recadrage, un redémarrage entre les deux hommes, compte tenu de ce qui s'est passé pendant la campagne. Ça, c'était à attendre, mais ça ne veut pas dire que ça va réussir, parce qu'il y a deux caractères quand même assez forts, et un en particulier qui est assez peu prévisible. Je pense que, évidemment, ça ne peut pas être aussi mauvais que ce qui s'est passé pendant le premier mandat de M. Obama lorsque Mme Clinton était aux affaires étrangères. Le recadrage, le reset, comme on l'avait appelé à l'époque, avait été un échec assez retentissant. Responsabilité partagée, évidemment, côté américain, côté russe. Donc là, on ouvre une page nouvelle. On a aussi l'expérience des événements dont on vient de parler au Moyen-Orient et notamment en Syrie, où il faut bien le dire, la vision russe était la plus pertinente, et c'est vrai aussi d'ailleurs pour les Européens. Monsieur Trump, qui est un pragmatique, qui n'est pas un va-t-en-guerre, mais un pragmatique très soucieux de protéger les États-Unis contre les risques de terrorisme d'obéissance islamique, je pense, analysera les choses de la manière la plus pratique qui soit, d'où ma réponse précédente sur les possibles bombardements en Syrie, avec le président russe. Donc je pense qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente sur les questions internationales, et singulièrement celle-là.
Et ça, sur le conflit syrien...
Pardon, la charge idéologique qu'aurait une période de longue expérience comme Mme Clinton sur les affaires étrangères et politiques, eh bien encore une fois, c'est un peu une page blanche.
Effectivement, c'est un gros point d'interrogation, si vous me permettez l'expression. Et vous parliez du conflit syrien, on peut également ajouter la crise ukrainienne, puisque durant la campagne électorale, Donald Trump a annoncé qu'il étudierait la possibilité de reconnaître la Crimée comme un territoire russe. Si tel est le cas, il se mettra à dos une grande partie des Occidentaux, et notamment de l'Union européenne. Merci beaucoup Yannick Mireur d'avoir été avec nous, politologue, spécialiste des États-Unis. Je signale notamment votre dernier ouvrage, Le monde d'Obama, aux éditions Choiseul. D'autres questions dès lundi. D'ici là, évidemment, vous n'hésitez pas à nous contacter au standard 33 9 693 693 70. Vous nous laissez évidemment vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler vos réactions et vos questions également sur les réseaux sociaux. À suivre le journal et on sera de retour dans 10 minutes pour la Libre Antenne. Vos commentaires sur l'actualité de votre choix. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent. Priorité santé.